Apocalypse, chapitre 2, verset 12.
Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous avons donc à méditer cette lettre adressée à l'église de Pergame. Pergame est située au nord d'Éphèse et de Smyrne que nous avons vu précédemment. Il y avait à Pergame, en outre, entre autres, le temple d'Esculape, le dieu de la médecine, dont l'emblème était le serpent, et la médecine moderne a gardé cet emblème. Il y avait aussi l'autel monumental de Zeus. Le père des dieux, le dieu tout-puissant dans la mythologie grecque. C'est à cette église que le Seigneur se révèle comme celui qui a l'épée à deux tranchants. Parce que dans cette église, il y a des ennemis à combattre, et le seul moyen, c'est la parole de Dieu. Jésus a combattu dans le désert Satan par sa parole, en disant « Il est écrit ». À l'église de Smyrne, le Seigneur s'était présenté comme le vainqueur de la mort, parce que cette église allait passer par la souffrance et même la mort. À l'église d'Éphèse, comme celui qui est présent, afin que sa présence la ramène à son premier amour qu'elle avait perdu. En résumé, pour chaque plaie, pour chaque situation, le remède, c'est le Seigneur. C'est lui qui possède la bénédiction particulière qui convient à chacun, que son nom soit béni. Le Seigneur dit à cette église, l'église de Pergame, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » C'est effrayant. Satan est partout. Mais dans certains endroits, il est particulièrement actif. Mais dès lors que Dieu a établi une église, là où est le trône de Satan, ne désespérons plus. Partout, le Seigneur est capable à faire de même et triompher. Il y a aussi des époques de calme et puis d'agitation. C'est Satan qui s'agite et qui agite le monde. Il agite même les chrétiens dans leur vie intérieure, personnelle, dans leur foyer, même dans l'Église, et souvent pour des riens. Pergame signifie château, élévation, et cette église est un poste avancé en territoire ennemi. Pergame doit être un château fort pour abriter et défendre la vérité. En territoire ennemi, on n'envoie pas n'importe qui. Par exemple, quelqu'un susceptible de faiblir et de déserter. Mais ne présumons pas de nos capacités. Vous savez que Pierre a protesté en disant « Seigneur, les autres, peut-être, t'abandonneraient, mais moi, pas. Et j'irai avec toi en prison, je donnerai même ma vie. » Mais en territoire ennemi, Pierre faiblit et déserta en reniant le Seigneur. « Tu es aussi de ces gens-là ? » ?»« Non, je ne suis pas de ces gens. Tu connais cet homme ? » ?»« Je ne connais pas cet homme. » »« Mais on t'a vu avec eux, je ne sais de quoi tu parles. » a-t-il répondu. Mais résumons, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Dans l'Église, il est facile de confesser sa foi, mais il faut aussi le faire devant les inconvertis sans faiblir et sans avoir honte. Car le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, eh bien moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et devant ses saints anges. Il fallait que cette Église ait une foi ferme et éprouvée pour résister. Nous avons tous la foi, n'est-ce pas? Sinon, nous ne serions pas ici. Mais que vaut la foi de chacun? C'est l'épreuve qui le dira. Dans son épître, Jacques nous dit, Jacques 1, 2, 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Nous devons avoir beaucoup de patience. La foi sans la patience n'est pas la vraie foi. Pierre, de son côté, dira, 1 Pierre 1, 7, 9, « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez le salut. Comment? Ne sommes-nous pas sauvés? Nous le sommes, certainement, mais l'apôtre Paul nous dira, nous sommes sauvés en espérance. Cette espérance est vivante et glorieuse, elle ne trompe pas, mais alors ce sera vraiment, effectivement, que nous expérimenterons le salut acquis à la croix par notre Seigneur et Sauveur. Pergame a une foi ferme. Il y a des jours et des circonstances où il est facile de croire, comme on croit, et d'autres où la foi est mise à rude épreuve. Et c'est seulement la foi authentique qui résiste et triomphe. Par exemple, comme Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Concernant Abraham, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut. Il y a précisément de ces circonstances où il est indispensable d'avoir une foi éprouvée pour pouvoir espérer contre toute espérance et tenir ferme. Pour Pergame, le Seigneur dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Et cela, malgré, premièrement, la présence particulière de Satan. En effet, le Seigneur a dit, là est le trône de Satan, où Satan exerce, son autorité néfaste. Deuxièmement, lorsque Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort, croire lorsque Satan exerce particulièrement son autorité néfaste, demeurer ferme et croire lorsque un des fidèles a été mis à mort, eh bien, c'est là vraiment des circonstances difficiles. Cependant, cette église de Pergame est demeurée ferme. Il a tenu ferme pour le nom de Jésus et il n'a pas renié sa foi en lui. Ouvrons une toute petite parenthèse. C'est le seul endroit où il est parlé d'Antipas. Ce n'est pas un apôtre qui en parle. Aucun chrétien ne fait mention de lui dans tout le Nouveau Testament. Et si le Seigneur, dans sa révélation, n'avait pas souligné le martyr de son fidèle témoin, eh bien, Antipas serait voué à l'oubli. Les hommes oublient très vite. Mais béni soit le Seigneur, quand les hommes oublient, le Seigneur n'oublie aucun des siens. Pergame donc n'est pas découragé, ni parce que Satan s'agite, ni parce qu'un fidèle témoin a été mis à mort, mais Pergame, sans se décourager, continue sa marche en avant. Mais vous savez, Satan non plus ne se décourage pas. Il ne se décourage pas, et quand il ne peut nous vaincre sur un front, il nous attaque sur un autre front. Souvenez-vous de Job, il l'a attaqué dans tout ce qu'il possédait, et comme ça n'a pas marché, il l'a attaqué dans sa santé, comme il tenait encore ferme, il l'a attaqué dans l'affection de son épouse, qui l'a incité jusqu'à aller dire à Job, « Qu'espères-tu encore en l'Éternel, maudit Dieu et meurs ?» Mais Job est resté ferme, sa confiance a été absolue en l'Éternel. Souvent, Satan, il le fait subtilement, jusqu'à il s'infiltre dans nos rangs. Le Seigneur a cependant des reproches à faire à Pergame qui a, comme vous le voyez, des qualités solides. Il a des reproches à faire, mais je vous fais remarquer qu'il n'incrimine pas toute l'Église. Mais le Seigneur met l'Église entière devant sa responsabilité. En effet, verset 14, la première partie, le Seigneur lui dit, « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Je reprends, « J'ai quelque chose, littéralement, j'ai de petites choses. » De petites choses, mais non pas insignifiantes. Car en effet, je crois vous avoir dit une fois, me conseilleriez-vous d'introduire dans ma montre un grain de sable, un rien, ou bien une goutte d'eau? Certainement pas. Vous savez ce qu'il s'en suivrait, n'est-ce pas? Eh bien, souvent, il en est ainsi, un petit rien entrave la marche de l'Église en avant. Une chaîne est composée de maillons, un seul maillon rongé met en danger ce à quoi elle est destinée. Un membre gangréné peut menacer de mort le corps tout entier. Éphèse, que nous avons vu, haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Pergame tolère. On est tolérant. Au nom de l'amour, il faut avoir de la charité, peut-être, n'est-ce pas? On le dit assez souvent, tolère. Et c'est une faute qui met en danger, justement, la vie de toute l'Église. Il y a des choses en désaccord dans les us et coutumes, en désaccord avec la parole de Dieu, que nous ne devons pas faire, même pas faire pour nos amis, même pas faire pour les frères et sœurs, si c'est contraire à la parole de Dieu. Ne prenez jamais comme exemple l'exemple d'une assemblée voisine, l'exemple d'un serviteur X, Y ou Z. Mais ce qui est à prendre comme modèle, comme règle de conduite, c'est la parole de Dieu. Efforçons-nous, vous et moi, à satisfaire la parole du Seigneur. Et c'est là ce qui est important. Pergame ne veut-elle pas renoncer à sa foi, à son Seigneur? Satan tentera de dévier la saine doctrine. La saine doctrine. Ah, il faut tolérer toutes les pensées. Frères et sœurs, il y a la pensée de Dieu qui doit prévaloir. Dévier la saine doctrine. Quelle était donc cette doctrine? Eh bien, d'abord, disons, il y a similitude de signification entre les deux noms, Balaam et Nicolaï. Balaam en hébreu signifie « seigneur du peuple » et Nicolaïte, qui est en grec, francisé bien sûr, signifie « dominateur du peuple ». Et quand on est seigneur, on domine, en bien ou en mal, voyez, il y a à peu près équivalence. Mais revenons à Balaam, qu'a-t-il fait? Et Balaam fut mandé par Balak, roi de Moab, de venir et de maudire Israël. Mais Balaam fut incapable de le faire, parce que Dieu mettait dans la bouche de Balaam des paroles de bénédiction au lieu de malédiction. Et Balaam ne pouvait faire autrement que de bénir le peuple. Alors, Balaam conseilla à Balak, j'abrège énormément, de mettre devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement. Littéralement, il est dit de jeter un scandale. Ce mot scandale, dans l'original, est traduit par certains exactement « jeter un scandale », d'autres traduisent « mettre un piège » et d'autres, comme dans notre Bible, de « placer une pierre d'achoppement ». Afin justement que les chrétiens, afin justement qu'Israël trébuche, que les enfants d'Israël se bute à cette pierre d'achoppement et se laisse prendre par ce piège que Satan a jeté devant eux. Et c'est d'ailleurs ce qui arriva. Les enfants d'Israël tombèrent dans le piège, ils fraternisèrent avec les Moabites et ils mangèrent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est l'idolâtrie qui a pris le dessus, au lieu de servir le seul vrai Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Et ce péché a conduit plus loin à un autre péché. Un péché conduit à un autre péché. Ils se livrèrent à l'impudicité, plutôt que de persévérer dans la sainteté. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si quelqu'un est saint, il n'est pas suffisamment saint. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais voilà, le peuple se livra à l'impudicité. Et l'apôtre Pierre nous révèle encore un autre trait. Dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 15, il nous dit « Balaam aima le salaire de l'iniquité ». Le mobile caché de Balaam, malgré ses belles paroles, et il en avait de ses belles paroles à annoncer, c'était la cupidité. Cupidité qui est une idolâtrie et une racine de tous nos maux, dira l'apôtre. Voilà comment, donc, l'ennemi s'était infiltré dans l'église de Pergame. J'ai de petites choses contre toi. Malgré sa foi éprouvée, de grand prix, à cause de ces petites choses, elle est devenue moins efficace. C'est comme des moucherons dans l'huile du parfumeur. Ce sont comme de petits renards dans nos vignes en fleurs qui ravagent nos vignes, est-il dit dans le Cantique des Cantiques. Souvent, il nous manque une chose, une petite chose pour que tout aille bien. Et également, à cause d'une petite chose en trop, tout va mal. Et c'est à nous à être vigilants pour que nous ne tolérions absolument rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Que réclame le Seigneur? La repentance. Repens-toi donc. De quoi? Eh bien, d'avoir toléré ces gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Comment se repentir? En combattant et la doctrine des Nicolaïtes et des gens attachés à cette doctrine par la parole de Dieu. Une déviation doctrinale est plus grave qu'un péché individuel. En effet, ce dernier condamne celui qui le commet. Mais une déviation doctrinale induit une multitude dans l'erreur et conduit à la perdition pour l'éternité. Je reprends encore ma montre. Si ma montre marche mal, c'est moi qui serai induit en erreur. Mais si c'est l'horloge publique, eh bien c'est toute un peuple, tout le public qui sera induit en erreur. Ainsi en est-il de la doctrine. C'est pourquoi le Seigneur dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt ». Nous avons cela dans nos Bibles. D'autres traduisent « promptement », d'autres traduisent « vite ». Ça veut dire que sans délai, le Seigneur viendra. Le Seigneur exige donc de chacun d'entre nous une prompte repentance, si nous en avons besoin, bien sûr. Sinon, je viendrai à toi promptement et les combattrai, a-t-il dit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, repentez-vous promptement. Mettez-vous en règle promptement. Réconciliez-vous promptement, pardonnez-vous réciproquement promptement, abandonnez vos péchés promptement, car le Seigneur viendra promptement. La repentance valable n'est pas en parole, mais en fruit. Jean-Baptiste, d'ailleurs, le disait à ceux qui confessaient leurs péchés, il leur disait « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Le Seigneur Jésus ne combattra pas, je vous le fais remarquer, l'Église entière, mais il combattra les égareurs et les égarés qui ne se repentent pas. Il retranchera ce qui est gangréné. En effet, le Seigneur a dit, je viendrai promptement et je les combattrai. Non pas je te combattrai, je les combattrai. Mais le Seigneur également a dit à celui qui vaincra. Donc, c'est un combat aussi que nous avons à livrer, puisqu'il est parlé de vaincre. Mais à celui qui veut combattre, la victoire est assurée d'avance. Au vainqueur, il donnera la manne cachée, au lieu des viandes sacrifiées aux idoles. Il donnera un caillou blanc, au lieu de la pierre d'achoppement qui fait trébucher. Et puis, sur ce caillou blanc, il écrira un nom nouveau. Et ce nom, quel nom sera? Eh bien, j'ai supposé que le Seigneur écrira sur ce caillou blanc le nom d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Que personne ne connaît, est-il dit, sinon celui qui reçoit ce caillou blanc comme les vainqueurs des jeux de ce temps-là. Le monde ne sait pas, mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Frères et sœurs, quelle ferme assurance pour nous, quelle joie pour nous, quel privilège. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne au-dedans de nous, et c'est pourquoi nous voulons persévérer, tenir ferme, et ne point nous laisser prendre par toutes sortes de pièges, ne pas nous achopper à toutes sortes de pierres d'achoppement, mais nous tenir ferme concernant la vérité, la parole de Dieu qu'il a mise entre nos mains. À lui toute la gloire, à lui nous demandons de nous aider. Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous te louons d'être venu à nous, d'avoir éclairé notre être intérieur, d'avoir combattu pour nous afin que la vérité ait triomphe, et elle a triomphé. Tu nous as fait passer de la puissance de l'ennemi à ton royaume. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ta grâce nous soit donc renouvelée chaque jour et que ta bonne main nous protège pour que nous achevions notre course en vainqueur, en gardant la foi. Amen.